François Bernard.
Bonjour ou bonsoir, nous sommes ensemble durant 50 minutes pour parler environnement, avec tout à l'heure le dernier de la série des 8 reportages d'Agnès Rougier dans les réserves de biosphère d'Afrique de l'Ouest. Rencontre aujourd'hui avec des directeurs de réserves françaises et africaines pour parler de coopération entre le Nord et le Sud.
Le cadre dans lequel on travaille, celui des réserves de la biosphère, est similaire. À quel point nos espoirs sont similaires, celui de parvenir à des régions qui font du développement durable, qui font de la mise en réseau, qui sont des endroits de dialogue, de confiance. Et donc, moi, ça m'a fasciné de voir à quel point c'est un tour de force réussi par l'UNESCO d'avoir réussi à faire en sorte que des régions aussi différentes parlent exactement le même langage.
Reportage d'Agnès Rougier dans une vingtaine de minutes. Et puis juste après, Dominique Dezonnet recevra le fondateur d'une entreprise spécialisée dans la vente de balançants. Ce sont des arbres qui retiennent l'eau. Mais pour l'instant, l'actualité environnementale de ce jeudi, Rachel Mulot, journaliste responsable des pages environnement à Science et Avenir, a accepté de les commenter pour vous. Merci de nous rejoindre en direct dans le studio de RFI.
Bonjour.
Alors, dans l'actualité de ce jeudi, la justice qui a interdit à l'opérateur téléphonique Orange l'installation d'une antenne relais à Paris. La décision a été prise au nom du principe de précaution. Il y a 2 semaines, à la suite d'une plainte des habitants d'un quartier de la capitale. Quel est votre avis, à vous, sur la dangerosité des antennes relais?
Alors, sans parler tout de suite de la dangerosité, je dois vous dire qu'on a observé depuis un moment la montée en puissance du phénomène d'inquiétude et l'organisation des riverains. Et on avait consacré un gros dossier à la question des ondes. C'était notre couverture du mois de mai dernier et on y postulait justement que les décisions de justice, les plaintes en justice allaient se multiplier. Donc je ne suis pas surprise en fait et de cette décision et de ce résultat. Ce que je trouve intéressant, c'est que les riverains en fait ont pris conscience du fait que les antennes étaient installées la plupart du temps sans qu'ils soient au courant et sans leur autorisation. Donc ils aimeraient une information plus claire et ça les opérateurs vont devoir en tenir compte. L'autre chose aussi, c'est que les gens aimeraient qu'on puisse tester un peu partout en France des antennes avec des seuils d'émission extrêmement réduits à 0,6 voltmètre. Bon, c'est une demande qui est portée par une association que vous connaissiez sans doute qui s'appelle Robin des Toits, oui, et qui n'arrête pas de harceler justement les opérateurs. Il faut savoir que dans certaines villes européennes, à Vienne notamment, il y a eu des essais et qui ont été plutôt concluants. Le 10 septembre prochain, c'est le Grenelle des ondes qui va rendre ses conclusions. Et il devrait y avoir justement des mesures pour permettre de multiplier des essais partout en France. Il y aurait une cinquantaine de villes qui seraient candidates.
Les seuils d'émission seraient donc trop hauts en France. Ils le sont d'ailleurs par rapport à nos voisins européens.
Il y a une polémique entre les opérateurs justement et les associations. Les opérateurs disent qu'ils ont besoin de travailler avec un certain nombre de volts par mètre, sinon ça ne fonctionne pas bien. Et les associations leur rétorquent que par précaution, on pourrait essayer d'utiliser un seuil minimal qui serait à 0,6 voltmètre. Les opérateurs répondent que ça ne va pas marcher et les associations disent « essayons ». Et c'est, je pense, ce qui va pouvoir se mettre en place là maintenant, à la suite de ce Grenelle.
Donc à la question « dangereux ou pas », difficile de répondre?
Oui, parce que c'était un des résultats de notre grosse enquête sur les ondes. Il faut savoir que l'épidémiologie environnementale, c'est une discipline qui est en crise. Et elle trouve aujourd'hui ses limites méthodologiques. Elle s'est rendue compte qu'elle avait parfois, alors qu'elle enquête sur par exemple les ondes, les cancers, les cerveaux, etc. Elle s'est rendue compte que certaines de ses enquêtes généraient des faux positifs. Elle s'est rendue compte que sa façon de faire des statistiques pouvait être soumise à défaut. Et aujourd'hui, tous les épidémiologistes se remettent en question. Donc, il va falloir réinitier de nouveaux travaux avec de nouvelles méthodologies, et seulement là, on en aura le cœur net. Et en attendant, justement, les associations préconisent, par précaution, de travailler avec des seuils minimaux.
Alors, je vous ai vu j'ai lu ce que vous écriviez. Prévenir le public, dites-vous, sur les possibles dangers de la téléphonie mobile ou tout autre sujet touchant à la santé publique peut valoir de graves ennuis. Alors, à qui et quel genre d'ennuis ?
Alors, à ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte. Ce sont des chercheurs qui sont souvent des francs-tireurs et qui, au sein de leur institution, un jour vont découvrir un problème, soulever un lièvre, le suivre parfois avec opiniâtreté. Et puis, leurs travaux peuvent mettre en jeu des intérêts financiers énormes. Ils peuvent se mettre en porte-à-faux avec leur laboratoire. Et à partir de là, les ennuis commencent. Qu'ils aient raison ou pas. J'ai plusieurs exemples à vous citer. Sur les OGM, il y a Christian Vélo qui est en délicatesse avec son institution aujourd'hui. Bon, il a aussi un fort caractère. Pendant très longtemps, Jean-François Narbonne, qui est l'homme qui a alerté sur les taux de dioxine dans les incinérateurs et qui est à l'origine en fait de la mise aux normes de nos incinérateurs, mais il a été pareil, traité comme un paria. Récemment, à Roscoff, il y a un chercheur qui a testé les effets du cocktail du Roundup Ready sur des oursins et qui a trouvé qu'il y avait des divisions cellulaires un peu suspectes et qui n'a pas trouvé de financement pour continuer ses recherches. Et voilà, donc être lanceur d'alerte, c'est se mettre en difficulté. Et quand j'ajoute aussi qu'avec la politique de privatisation de la recherche, on encourage énormément en fait des organismes comme le CNRS à passer d'énormes contrats avec par exemple les boîtes OGM ou les grandes boîtes chimiques, etc. Et tout ça permet d'élaborer des partenariats très intéressants, mais peut-être que parfois à un moment ça peut ligoter la parole des...
Ce seraient ces grandes boîtes donc qui se sentiraient menacées par les alertes.
Oui, de leur côté, ils produisent leurs propres expertises, mais il ne faut pas oublier qu'ils défendent aussi un produit commercial. Donc parfois, il y a des intérêts qui se heurtent. Mm-hmm. Dans le cas aussi de Jean-François Narbonne et des incinérateurs, c'était pour l'État français le coût monstrueux que consistait la remise aux normes de tous les incinérateurs. Mm-hmm. Et forcément, ça les enquiquinait.
D'accord. Dans l'actualité également, Rachel Mulot, ces associations environnementales bretonnes qui dénoncent dans un communiqué publié hier, je les cite, le manque de courage politique de l'État. Il ne met pas en cause le productivisme et l'élevage hors sol. Ces associations s'en plaignent face à la prolifération des algues vertes, se contentent de reconnaître le caractère dangereux des gaz de putréfaction des algues échouées, sans proposer aucune réelle alternative, dit le communiqué. Est-ce que la mesure du problème des algues vertes sur les plages bretonnes en particulier a été prise selon vous?
Alors écoutez, le problème dure depuis tellement d'années qu'il faudrait être aveugle et puis avoir le nez bouché, je veux dire, pour ne pas s'être aperçu qu'il y avait un réel problème en Bretagne. Effectivement, le rapport montre cette dangerosité, très bien. Mais ce que je comprends en fait la colère de ces associations, il y a quand même en Bretagne énormément d'élevage de porcs, et sans vouloir simplement les pointer du doigt, on sait qu'il y a une relation entre leurs effluents, leurs rejets et l'explosion d'algues vertes. Et je vais vous dire, ça ne se limite pas à la Bretagne. Le problème est le même dans les zones côtières asiatiques, par exemple en Chine ou en Thaïlande, etc. Les élevages qui sont en bord de mer provoquent des montées énormes d'algues vertes. Donc si on veut essayer de régler le problème, et en plus il a un coût touristique, un coût économique important quand même, parce qu'aller se barboter dans des algues comme ça, c'est quand même... Ça n'est pas plaisant. En plus, on a démontré la qualité toxique. Régler le problème, c'est aussi se poser la question de l'élevage industriel, de sa concentration, de la façon dont il doit être géré, peut-être de nouvelles normes, ou d'alléger leur pression sur le terrain. Il y a eu un rapport de la FAO qui a montré effectivement que ces élevages étaient extrêmement nocifs pour l'environnement, ça date de 2006. Bon, voilà, on ne peut pas ne pas être au courant.
On a du mal donc à prendre le problème à la source. Il n'y a pas que les élevages, il y a aussi les pesticides, ça vous interpelle, j'imagine, au premier chef, parce que vous vous intéressez de près au sort des abeilles, et les deux, pesticides et abeilles, ne font pas bon ménage, manifestement.
Oui, alors, là encore, on a eu un parti pris assez fort. On a vendu notre journal avec un DVD, qui est un film de Natacha Calestrémé, sur la fin du mystère de la disparition des abeilles. Et ce que postule, en fait, cette enquête, c'est que les abeilles ne sont pas victimes de multiples facteurs, comme des virus, des parasites, puis des pesticides, puis etc. Elles seraient d'abord victimes de pesticides qui affaiblissent leur organisme, et notamment toutes ces nouvelles molécules enrobées en fait qui font que la plante elle est pesticide vaccinée pour toute l'année. Et elle postule en fait que ces pesticides affaiblissent l'organisme des abeilles, ce qui les rend plus vulnérables à des virus et à des parasites qui sont présents dans l'environnement depuis très 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 longtemps. Et ça pourrait expliquer, selon elle, la forte mortalité des abeilles. On en revient au sujet des lanceurs d'alerte et des experts. Il y a plusieurs chercheurs qui ont travaillé sur ce sujet. Jean-Marc Bonmatin du CNRS et puis un autre de Supagro. C'est pareil, ce sont des chercheurs qui ont avancé ces hypothèses et qui sont parfois en délicatesse avec leur institution. Ils touchent à des sujets extrêmement sensibles.
Rachel Mulot de Science et Avenir est l'invitée de C'est pas du vent ce jeudi. Lui s'appelle Dominique A et sa chanson « Personne ». Rachel Mulot, journaliste à Science et Avenir, chargée des questions environnementales pour le magazine, nous a rejoint. Enfin, elle est là depuis une dizaine de minutes. Merci. Ça n'est pas de tout repos, manifestement, de faire ce boulot. Mais avant peut-être d'aborder votre actualité à vous et vos sujets de préoccupation, je voudrais juste finir l'actualité avec cette trentaine d'espèces rares de plantes qui ont été recensées sous des lignes à haute tension, qui sont devenues donc des zones refuges pour des espèces qui n'avaient plus leur biotope d'origine. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, comme réflexion ?
En fait, je ne suis absolument pas étonnée. Et il faut savoir que RTE travaille depuis un moment avec des spécialistes de la biodiversité, des gens comme le Conservatoire National Botanique. Dans certains parcs, par exemple, ça va être le parc du Vexin, le parc de Chevreuse, si je me trompe, excusez-moi, avant de mettre d'enterrer des conduites de gaz, etc. et tout, ils ont fait une collaboration avec des botanistes. Donc c'est une façon de travailler qu'ils ont depuis un moment. Et là, ils ont eu tout simplement l'idée de demander à des botanistes de venir faire le recensement sous les lignes haute tension. Et il est vrai que des espèces qu'on n'avait pas vues depuis les années 60, comme je crois le polygala chevelu, ont été retrouvées sous ces lignes. Et en fait, ce sont des espèces qui sont opportunistes. Avant, on les éradiquait partout, elles n'avaient pas de place pour se développer. Ces tranchées, on les a laissées libres et elles ont colonisé l'endroit. Alors évidemment, pour RTE, c'est une façon positive
RTE,
de communiquer.
C'est quoi?
En fait, c'est les réseaux électriques
de transport
d'électricité en France. Et voilà, ce sont eux qui ont eu l'idée. C'était avec Gaz de France dans le parc du Vexin dont je parlais tout à l'heure.
Alors, j'en reviens à votre fonction de journaliste. Comment vous observez-vous la montée en puissance des problématiques écologiques? Est-ce qu'au sein de votre rédaction, par exemple, vous avez pris du galon? Vous êtes devenu plus prioritaire, on va dire?
Alors écoutez, quand je suis arrivée dans ce journal il y a à peu près 13 ans, je me suis occupée assez vite de la rubrique écologique. Et au début, dans les réunions de rédaction, on me moquait beaucoup. On me disait que c'était pas la rubrique écologique, c'était la rubrique nécrologique. Rachel, quelle catastrophe tu vas encore nous annoncer ce mois-ci? Qui est-ce qui est mort? Le tigre de machin, le petit crapaud truc, il y a eu une catastrophe, ou etc. Et effectivement, le message qui était beaucoup catastrophiste avait du mal à passer. Et nous relayions beaucoup à ce moment-là le message de ceux qu'on appelle les croisés en sciences politiques, c'est-à-dire les ONG, les militants, etc. et tout. Et parfois, il n'y avait pas toujours les études scientifiques derrière, ou nécessaires, qui venaient évaluer, ou pondérer, ou avoir même renforcer les inquiétudes des organisations.
Ça n'est plus le cas aujourd'hui.
Voilà. Aujourd'hui, moi, ce que j'observe, c'est un renforcement de l'expertise des scientifiques qui produisent de plus en plus d'études.
Les ONG aussi,
leurs scientifiques
à disposition.
Oui, elles ont aussi leurs scientifiques, mais les ONG, il ne faut pas oublier qu'elles communiquent. Ce sont aussi des militants. Et puis, les ONG ont une priorité, c'est de faire en sorte que les choses soient inscrites sur l'agenda politique. Mais là, je pense que toutes les choses sont, les conditions sont réunies. Les croisés, les experts sont là, et les politiques commencent à comprendre, on le voit avec le Grenelle de l'environnement, qu'il est temps de mettre certaines choses sur l'agenda. Donc, cette montée en puissance, je le vois, et effectivement, il y a 13 ans, on avait de temps en temps de quelques sujets d'environnement, ce sont de jolis sujets animaux, pour la plupart du temps en voie de disparition. Aujourd'hui, on est sur tous les fronts. Les pesticides, le climat, le retraitement des déchets, c'est un champ extrêmement vaste. Les ondes aussi, ça en fait partie. L'environnement urbain est tout aussi important.
Alors, science et avenir, c'est le titre du journal auquel vous collaborez. Est-ce qu'il faut chercher dans la science un avenir meilleur pour les problèmes environnementaux auxquels nous sommes confrontés?
Alors, c'est une question qui est très délicate. Tout dépend, en tout cas, la science doit pouvoir, c'est ce qu'elle fait, donner la mesure des problèmes et éventuellement proposer des solutions, tout en sachant bien que c'est le politique qui prend les décisions. Après, parmi les scientifiques eux-mêmes, il y a différents courants. Et j'ai l'impression que vous faites allusion à ce courant scientiste qui pense qu'avec la science, on arrivera à résoudre tous les problèmes demain.
Entre autres.
J'aurais envie d'inviter tous les scientistes, en fait, un peu d'humilité. Il y a des gens qui imaginent, par exemple, qu'on va peut-être pouvoir ralentir le réchauffement climatique en envoyant des particules dans l'atmosphère, en enrichissant les océans en fer, etc., etc. Ce sont des choses à prendre. La géo-ingénierie est une science qui me paraît devoir être prise avec énormément de pincettes. Donc il y a des scientifiques qui poussent et il y en a d'autres qui les incitent à la prudence. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, le réchauffement est là et maintenant il va falloir s'adapter. Et les solutions des scientifiques feront partie du panel.
D'accord. Je voulais vous poser la question de savoir si vous étiez plus actrice ou observatrice de cette cause environnementale, mais vous avez 10 secondes pour y répondre.
En fait, nous relayons les faits et je dirais que j'essaye d'être l'observatrice la plus juste possible.
Merci Rachel Mulot d'avoir partagé avec nous votre réflexion sur l'environnement. Bon courage, à bientôt. On poursuit l'émission dans 3 minutes. À tout de suite.